Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Au début du XVIIIe siècle, la question de la forme de la Terre constitue un test décisif pour la physique mathématique en train de se constituer. La Terre est ronde, ce point ne fait débat pour aucun savant sérieux. Cette certitude remonte à l'Antiquité et a été transmise sans discontinuité. La question posée au XVIIIe siècle est d'une autre nature. Quelle est la figure exacte de la Terre réelle ? Dans le cadre de la mécanique de Newton, la réponse est précise. Une planète soumise à sa propre gravitation et animée d'un mouvement de rotation ne peut pas être une sphère parfaite. La force centrifuge, maximale à l'équateur, doit produire une déformation. La figure d'équilibre attendue est un ellipsoïde aplati au pôle. Cette conclusion n'est pas simplement un détail technique. Elle engage la validité de la gravitation universelle elle-même. Si la Terre ne présente pas l'aplatissement prévu, c'est toute la mécanique newtonienne qui se trouve fragilisée. Or, en France, cette théorie est discutée. Non par ignorance, mais parce qu'elle entre en contradiction avec les traditions savantes bien établies, issues de Descartes et prolongées par Cassini. Dans ces cadres, la Terre a parfois été décrite comme légèrement allongée ou du moins non conforme aux prédictions de Newton. La controverse ne sera pas tranchée par des raisonnements abstraits ni par l'autorité des systèmes, elle doit l'être par des mesures géométriques directes réalisées sur la Terre elle-même. L'idée est simple dans son principe. Si la Terre est aplatie, la longueur correspondant à un degré de latitude varie selon la position géographique. Près des pôles, ce degré doit être plus long que près de l'équateur. La différence attendue est faible, mais mesurable. Encore faut-il préciser ce que signifie un degré de latitude. Un degré correspond à un arc de méridien d'environ 111 km. Il est évidemment impossible de mesurer directement une telle distance à la règle ou avec une chaîne. Toute la difficulté consiste donc à construire une méthode indirecte suffisamment précise pour détecter des variations de quelques centaines de mètres sur plus de 100 km. C'est ici que la géométrie et l'astronomie entrent pleinement en jeu. La méthode retenue est la triangulation. Elle n'est pas nouvelle, mais elle n'a jamais été appliquée à une telle échelle, ni dans des conditions aussi extrêmes. Le principe est le suivant. On commence par mesurer très soigneusement une base initiale, un segment de terrain de quelques kilomètres, mesuré directement à l'aide de règles métalliques étalonnées. Cette base est le seul élément mesuré physiquement. À partir de cette base, on observe des points éloignés, des sommets de collines, des signaux artificiels, et on mesure des angles formés entre ces points à l'aide d'instruments optiques. Par un calcul trigonométrique, on déduit les distances inconnues. De triangle en triangle, on construit ainsi un réseau couvrant une portion du méridien terrestre. La méthode est puissante, mais extrêmement exigeante. Elle suppose une précision angulaire élevée, des instruments stables, des corrections fines pour la réfraction atmosphérique. Pour maximiser la portée du test, l'Académie des sciences décide d'organiser deux expéditions géodésiques simultanées, conçues comme deux branches d'une même expérience planétaire. La première est envoyée vers le nord, en Laponie, à proximité du cercle polaire. La seconde est envoyée vers l'équateur, dans les territoires du Pérou espagnol, le long de la cordillère des Andes. Plus on s'approche des pôles ou de l'équateur, plus l'effet recherché est accentué. La direction de l'expédition de Laponie est confiée à Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Maupertuis est un mathématicien reconnu, un défenseur actif de Newton, mais aussi un homme très conscient de sa position intellectuelle. Il comprend parfaitement l'enjeu symbolique de l'entreprise, mais il sait aussi que cette conviction n'a aucune valeur sans une méthode irréprochable. Et celui qui la rapporterait en France en tirerait un prestige considérable. L'expédition quitte la France au printemps 1736. Elle comprend plusieurs savants de premier plan, notamment Alexis Clairaut, chargé de l'analyse mathématique des données, Pierre-Charles Lemonnier et le savant suédois Anders Celsius, qui facilitent le travail sur place. La Laponie impose des contraintes spécifiques. Le froid affecte les instruments métalliques. La durée du jour perturbe les observations astronomiques. Les moustiques rendent le travail estival presque insupportable. Les distances sont difficiles à estimer visuellement dans un paysage peu contrasté. Ces contraintes ne sont pas anecdotiques, elles influencent directement la qualité des mesures. Très vite, des désaccords apparaissent au sein de l'équipe. Ils portent sur la correction de la réfraction atmosphérique, sur la stabilité des instruments, sur la fiabilité de certaines observations stellaires. Ces conflits ne sont pas un accident, ils sont constitutifs du travail scientifique. Chaque membre de l'équipe sait que les conclusions auront une portée considérable. La vigilance est extrême. Ce qui est remarquable, c'est que les erreurs ne sont pas dissimulées. Elles sont discutées, comparées, parfois recalculées. La méthode progresse précisément par cette confrontation interne. C'est ici que se joue une part essentielle de la modernité de l'expédition. Après des mois de mesures et de calculs, un résultat se dégage. Le degré de latitude mesuré en Laponie est plus long que celui mesuré plus au sud en France. La différence est faible, mais cohérente et répétée. Elle va exactement dans le sens prédit par Newton. La Terre est aplatie au pôle. Ce résultat, toutefois, ne suffit pas encore à clore le débat. Il doit être confronté à la mesure équatoriale. Pendant que l'expédition de Laponie progresse relativement rapidement, l'expédition équatoriale connaît une trajectoire tout à fait différente. Elle est plus longue, plus coûteuse, plus conflictuelle et d'un point de vue humain, plus éprouvante encore. Elle est conduite notamment par Charles-Marie de Lacondamine et Pierre Bouguer. Contrairement à Maupertuis, ces savants ne disposent pas d'un commandement clair et incontesté. L'expédition est traversée de rivalités personnelles, de désaccords méthodologiques profonds et parfois d'animosité durable. La région choisie, le long de la cordillère des Andes, n'est pas seulement difficile d'accès, elle impose des contraintes physiques permanentes. L'altitude rend la respiration pénible, la fatigue chronique s'installe, Les maladies se multiplient, les tremblements de terre détruisent parfois les repères soigneusement établis. Les autorités locales se montrent tantôt coopératives, tantôt méfiantes. À cela s'ajoute une difficulté méthodologique majeure, la durée. Là où la Laponie permet des opérations concentrées dans le temps, l'expédition équatoriale s'étale sur des années. La cohérence des mesures devient plus difficile à maintenir. Les instruments évoluent, les observateurs changent, les conditions varient. Il est essentiel de comprendre que la force de la démonstration ne repose pas sur une mesure isolée, mais sur la comparaison de deux dispositifs indépendants. En Laponie, comme dans les Andes, la méthode est fondamentalement la même, mais les sources d'erreurs ne sont pas identiques. Au nord, la température affecte les instruments et la réfraction atmosphérique est difficile à estimer. À l'équateur, l'altitude et les variations climatiques introduisent d'autres biais. Ce qui est remarquable, c'est que malgré ces différences, les résultats convergent. Le degré mesuré près de l'équateur est plus court que celui mesuré près du pôle. L'écart est faible, mais encore une fois cohérent, répété et compatible avec les prédictions de Newton. Lorsque Maupertuis rentre en France, il publie rapidement ses résultats, il insiste sur la rigueur de la méthode, mais aussi sur les difficultés rencontrées, sur les souffrances endurées, sur les conditions extrêmes du travail scientifique. Ce récit rencontre un grand succès. Il contribue à établir Maupertuis comme une figure majeure du newtonisme français. Mais cette mise en scène suscite aussi des réactions critiques. Certains savants estiment que Maupertuis accorde trop peu de place au rôle de ses collaborateurs et en particulier à celui de Clairaut dont les calculs sont essentiels à l'interprétation des données. D'autres s'agacent du ton héroïque du récit jugé excessif. C'est dans ce contexte qu'intervient de manière décisive Voltaire. Voltaire est un partisan convaincu de Newton. Il a contribué de manière décisive à faire connaître sa physique en France. Il soutient sans réserve les expéditions géodésiques et comprend parfaitement leur portée scientifique. Mais Voltaire n'est pas un homme de terrain. C'est un observateur aigu des comportements humains, un critique redoutable de la vanité. Il admire la méthode, mais il se méfie de ceux qui se l'approprient trop visiblement. Il observe avec une grande lucidité les mécanismes de la gloire scientifique et les tentations de l'auto-célébration. Sa formule célèbre résume son jugement. Il est allé mesurer la Terre et il est revenu en mesurant les hommes. Cette phrase n'est pas une simple plaisanterie, elle contient une critique précise. Maupertuis, selon Voltaire, a fait d'une entreprise collective et méthodique une aventure centrée sur sa personne. Il a transformé une démonstration géométrique en récit héroïque. Voltaire poursuivra Maupertuis de ses satires, parfois avec une cruauté manifeste, notamment lorsque celui-ci deviendra président de l'Académie de Berlin. Les pamphlets voltairiens ne visent pas la science, mais le personnage. Il est important de souligner que Voltaire ne remet jamais en cause les résultats. Il ne conteste ni l'aplatissement de la Terre, ni la validité des mesures. Sa critique est morale et politique et non scientifique. Au-delà des querelles personnelles, que reste-t-il de l'expédition de Maupertuis? D'un point de vue strictement scientifique, le résultat est clair. Pour la première fois, une théorie physique, la gravitation newtonienne, est testée à l'échelle de la planète par des mesures coordonnées, longues, coûteuses, disputées publiquement. La démonstration ne repose pas sur un calcul, mais sur la résistance des faits. Ce résultat ne dépend pas de l'autorité de Maupertuis ni de celle de Newton. Il dépend de la cohérence géométrique des mesures effectuées dans des conditions très différentes. L'expédition de Maupertuis marque un tournant méthodologique. Elle montre que la science moderne ne progresse pas seulement par l'invention de théories, mais par l'organisation de dispositifs expérimentaux complexes, collectifs, coûteux, parfois conflictuelle. Elle met en lumière l'importance de la discussion des erreurs, de la comparaison indépendante des résultats et de la publication détaillée des méthodes. Elle montre aussi que la science est une activité humaine traversée par des rivalités, des ambitions, des susceptibilités. Voltaire l'a compris mieux que quiconque et c'est ce qui donne à sa satire une portée durable. Entre la Laponie et les Andes, entre le cercle polaire et les hauts plateaux sud-américains, la Terre a été soumise à une épreuve inédite. Elle a été mesurée, contrainte de répondre en quelque sorte. Voltaire a rappelé avec ironie que la science n'exonère pas de la modestie.
Trois extraits musicaux. D'abord Rameau, Forêt paisible, 1735, pour se placer dans l'époque. Puis Winter Games, musique populaire lapone, pour se placer dans le lieu. Et enfin Cantus Arcticus, composé en 1972 par Rotavara, qui évoque la nature, un concerto pour oiseaux et orchestre.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.